Voilà, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer, que ce ne soit pas simplement notre intelligence qui comprenne, mais que notre intelligence soit soumise à l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit qui va nous faire comprendre en profondeur ce que le Seigneur veut nous dire à chacun. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que ta parole nous a été transmise de génération en génération. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que nous pouvons la lire. Et nous, dans notre pays, nous pouvons la lire librement, ce qui n'est pas le cas dans de très nombreux pays. Nous te bénissons aussi, Seigneur, de ce que il y a quelqu'un qui nous assiste lorsque nous ouvrons ta parole. Et celui qui nous assiste, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit du Père. Alors Seigneur, aujourd'hui encore, que ton Saint-Esprit fasse vraiment ce travail de compréhension, mais pas en surface, Seigneur, en profondeur, pour la gloire de ton nom. Amen. Aujourd'hui, contrairement à l'habitude, j'ai pris un texte du jour, mais j'ai pris le psaume cette fois-ci. Et donc, il s'agit du psaume 19, voilà, que je vais vous lire maintenant. Le ciel proclame la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Dieu a dressé dans le ciel une tente pour le soleil. Le matin, celui-ci paraît, tel un jeune marié qui sort de sa chambre, un champion tout heureux de prendre son élan. Il sort à une extrémité du ciel, son tour le mène à l'autre extrémité, rien n'échappe à ses rayons. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur méritent confiance, ils aident les simples à savoir se conduire. Les exigences du Seigneur sont justes, elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. Le respect qu'inspire le Seigneur est pur, il persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées, toutes sans exception sont justifiées, plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux est plus agréable que le miel le plus doux. Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement. On a tout avantage à suivre tes avis. Tout le monde fait des erreurs sans le savoir. Pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. Préserve-moi encore des insolents, fais qu'il n'ait aucune prise sur moi. Alors, je serai sans reproche et préservé d'une faute grave. J'espère que tu approuveras ce que j'ai dit et médité devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. J'aime bien tenir Un titre général à la méditation qu'on me demande de faire. Et ce titre serait aujourd'hui « Dans quelle intention Dieu a-t-il créé le monde ?» Dans l'univers que nous pouvons percevoir avec nos sens, tout parle de Dieu. Il n'y a pas de quoi s'étonner de cela. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que c'est Dieu qui a créé l'univers. En créant le monde, Dieu avait un but. Son but, c'est que tous les hommes puissent le connaître et comprendre qui il est en voyant ses œuvres. C'est ce que nous disent les 5 premiers versets du psaume que je viens de lire. Revoyons chaque verset. Au verset 2, le psalmiste personnalise deux éléments de la création que nous pouvons voir tous les jours, simplement en levant les yeux, le ciel et la voûte étoilée. Ces deux éléments, le psalmiste leur attribue à chacun une mission. Pour le ciel, la mission de proclamer la gloire de Dieu. Pour la voûte étoilée, celle de révéler aux hommes ce que Dieu a fait. Je relis. Le ciel proclame la gloire de Dieu, la voûte céleste révèle ce qu'il a fait. Au verset 3, deux nouveaux éléments de la création entrent en scène. Le jour et la nuit. Leur mission est de proclamer sans cesse, la gloire de Dieu et de révéler aux hommes que ce qu'ils voient est une création de Dieu. La succession des jours et des nuits, le psalmiste la voit comme un rappel permanent de la gloire de Dieu et de la grandeur de son œuvre. Cela évoque pour moi, ne riez pas, un relais 4 fois 400 mètres, où chaque coureur passe le témoin à celui qui est devant lui. Ici, le témoin, c'est la gloire de Dieu qui est transmise depuis la création. Je lis, chaque jour en parle au jour suivant, et chaque nuit l'annonce à celle qui la suit. Ces quatre éléments, le ciel, la voûte étoilée, le jour, la nuit, ne se contentent pas d'être là, passivement. Ils jouent un rôle actif pour faire connaître Dieu. Le psalmiste emploie des verbes forts pour décrire leur rôle. Il emploie le verbe proclamer, le verbe révéler, le verbe annoncer. Aujourd'hui, on pourrait dire que ces verbes relèvent tous du domaine de l'évangélisation. On pourrait dire que ces quatre éléments sont un peu comme des évangélistes. Bien sûr, frères et sœurs, on peut voir dans ces deux versets une simple image poétique. Mais je crois que ce n'est pas du tout l'intention du psalmiste. Il ne cherche pas à émouvoir le lecteur, à exciter sa sensibilité. Il parle de la façon dont Dieu s'y prend pour se faire connaître aux hommes à travers la grandeur et la beauté de la création. Et s'il en parle si bien, c'est parce qu'il l'a expérimenté. Je suis certain que le psalmiste a passé du temps à observer la voûte céleste lorsque le ciel est dégagé. Les milliers d'étoiles que l'on peut voir à l'œil nu et qui sont autant de soleils comme celui qui éclaire et chauffe notre terre, mais qui sont parfois à des milliers, des millions d'années-lumière. Les trois ou quatre planètes comme la Terre, visibles aussi à l'œil nu, qui brillent comme des étoiles, sont pour lui autant de témoins de la gloire et de la grandeur de Dieu. Comment, en effet, ne pas être émerveillé devant un spectacle aussi grandiose? Au verset 4, le psalmiste nous décrit une particularité de ces témoins. Quelle est-elle? Il proclame un message sans que l'on entende aucun son. Aucun homme ne peut les entendre avec ses oreilles ou les comprendre avec son intelligence. Ces témoins ne prononcent aucun mot intelligible. Et pourtant, d'une extrémité à l'autre de la terre, ils proclament la gloire et la grandeur de Dieu. Le psalmiste semble dire qu'ils ont été créés pour cela. Je lis, ce n'est pas un discours, ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend aucun son, mais leur message parcourt la terre entière, leur langage est perçu jusqu'au bout du monde. Je note que Paul cite le verset que je viens de lire en Romains 10, 18, en déplorant que ces coreligionnaires juifs aient refusé d'entendre ce message inaudible, et pourtant fait pour être compris. À partir de la seconde partie du verset 5, le psalmiste personnalise un autre élément de la création. Il s'agit du soleil. Lui aussi est important dans le rôle que Dieu lui a assigné. C'est lui qui apporte la lumière aux hommes. Sans lumière, les hommes se trouvent dans les ténèbres. Il est clair que le psalmiste n'évoque pas ici les ténèbres physiques, mais les ténèbres spirituelles. Dans son évangile, Jean parle de Jésus comme étant, je cite, « la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme ». C'est Jean 1, 9. Des siècles avant Jean, le psalmiste parle aussi de cette lumière à laquelle rien ne peut échapper, ni les choses, ni les êtres. Je cite, « le soleil sort à une extrémité du ciel, sous son tour le mène à l'autre extrémité, rien n'échappe à ses rayons. » À quelle partie de l'homme ces messages inaudibles, physiquement, s'adressent-ils? Ce n'est pas à notre corps. Dans un premier temps, ce n'est pas non plus à notre âme. Notre âme dans laquelle se trouve l'intelligence. En effet, l'intelligence de l'homme a besoin d'entendre pour comprendre. Ces messages inaudibles s'adressent donc à notre esprit. À une condition cependant, c'est que notre esprit ait été régénéré à la nouvelle naissance, c'est-à-dire la naissance spirituelle. Avant notre nouvelle naissance, notre esprit était comme mort, incapable de comprendre les messages que Dieu veut transmettre aux hommes par son esprit. Alors vous m'objecterez, les non-chrétiens dont vous dites que leur esprit est mort sont pourtant capables de s'émouvoir devant le spectacle grandiose de la création, devant la majesté de la Voie lactée, devant la course du soleil, dans le ciel, devant une éclipse de soleil. C'est vrai. mais c'est une émotion purement esthétique qui ne conduit pas la plupart du temps à reconnaître que la création est l'œuvre de Dieu. J'ai précisé la plupart du temps, car le message muet que proclame la création peut aussi toucher des cœurs incrédules. Et comment s'en étonner, puisque c'est dans le plan de Dieu. Eh bien, voici un témoignage parmi des millions d'autres, sans doute. Les astronautes américains qui s'entraînaient pour le programme Apollo étaient pour la plupart des chrétiens pratiquants et engagés dans leur église. Ce n'était pas le cas pour Eugene Cernan, le commandant de la dernière mission lunaire Apollo 17 en 1972. Il avait été élevé dans la foi catholique, mais comme beaucoup de ses contemporains, il n'était pas, je mets des guillemets, porté sur la religion. Comme on dit, euphémisme pour dire que la question de Dieu était vraiment le cadet de ses soucis. C'est son voyage sur la Lune, avec tout ce qu'il a vu dans l'espace, la beauté de notre belle planète vue de l'espace, qui l'a convaincu que l'existence d'un créateur était indispensable selon lui pour expliquer la beauté et la perfection de l'univers. Il est intéressant de noter que l'apôtre Paul parle aussi de ces messages muets que la création adresse aux hommes pour leur faire connaître Dieu. Voici ce qu'il écrit. Ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous les hommes. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle, sa nature divine, se voient dans les œuvres qu'il a faites. Romains 1, 19, 20. Malgré ce qui est une évidence pour Paul et pour tous les chrétiens nés de nouveau, Paul constate, comme nous-mêmes nous pouvons le constater aussi, que beaucoup d'hommes vivent comme si Dieu n'existait pas. Et c'est ce qui lui fait dire cette phrase terrible. Ils sont donc sans excuse. C'est le verset 20. Après nous avoir parlé du pouvoir de la création pour éveiller le cœur de l'homme à rencontrer Dieu, à le reconnaître comme tel et à célébrer sa gloire, le psalmiste nous montre l'autre moyen utilisé par Dieu pour se révéler aux hommes. Ce sont les Écritures. Pour les Juifs de l'époque du psalmiste, les Écritures peuvent signifier le Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, ou même l'Ancien Testament en entier. Pour nous, chrétiens, il s'agit de l'ensemble de la Bible. C'est ce qu'il faut comprendre lorsqu'on lit les versets 8 à 11. Les mots « loi », « ordre », « exigence », « commandement » ne doivent pas être compris dans un sens restrictif, mais dans la totalité de ce que Dieu dit aux hommes dans l'ensemble de la Bible. Ce qui confirme cette façon de comprendre, c'est qu'il n'est jamais question dans ces quatre versets de mise en garde, d'exhortation, de condamnation, de malédiction, etc., comme on en trouve souvent dans les textes bibliques. Ces quatre versets ne parlent que des avantages qu'il y a à vivre en accordant de l'importance à ce que Dieu dit dans les Écritures. Je vous redis ce verset 8 à, ces versets 8 à 11. La loi du Seigneur est parfaite. Elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur méritent confiance. Ils aident les simples à savoir se conduire. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides. Ils aident à y voir clair. Le respect qu'inspire le Seigneur est pur. Il persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées. Toutes, sans exception, sont justifiées. Plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux et plus agréable que le miel. Plus que le miel, le plus doux. Nous voyons qu'il est question d'une parole qui rend la force de vivre, en qui on peut avoir confiance, qui donne de la sagesse, qui remplit le cœur de joie, qui aide à voir clair, qui montre que ce que Dieu dit, que ce que dit le Seigneur, c'est juste. Et que ce que Dieu veut pour nous est plus désirable que beaucoup d'or et que le miel le plus doux. Frères et sœurs, voilà ce que devrait être la perception que les chrétiens ont des Écritures. On est bien loin d'une vision légaliste du contenu de la Bible, vision vécue par tant de chrétiens. En effet, à l'image de certains pharisiens qui condamnaient Jésus lorsqu'il guérissait un homme le jour du sabbat, Matthieu 12, 9, ou reprochait à ses disciples de manger sans s'être lavé les mains, Matthieu 15, 2, ou leur reprochait d'égrener des épis de blé le jour du sabbat, geste qu'ils considéraient comme du travail. Tant de chrétiens se sont enfermés dans une tension perpétuelle entre le bien et le mal, en voulant obéir aux commandements, au lieu de vivre une relation de confiance voulue par Dieu lui-même. Combien de chrétiens ont transformé des commandements divins en une simple morale qui les enferme dans une tension entre le bien et le mal? Le bien qu'il faut faire, mais qu'ils oublient de faire, et le mal qu'il ne faut pas faire, mais qu'ils font souvent, avec le sentiment de culpabilité et de honte que cela engendre. Frères et sœurs, Dieu n'a pas voulu cela. Dieu n'a pas voulu créer une religion avec des règles strictes et mortifères. Dieu n'a pas voulu créer une morale. Il a voulu qu'entre lui et ses créatures, ce soit une relation de confiance qui s'installe et qui grandisse au fur et à mesure que les hommes le connaissent mieux. Il a voulu que ces créatures soient libres, libres comme seul peut procurer une relation d'amour et de confiance, libres de l'aimer, lui, le Créateur, libres pour s'aimer les uns les autres à l'image de Jésus qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie sur la croix. La dernière partie du psaume, des versets 12 à 15, nous montre que ce que le psalmiste a écrit n'est pas une création littéraire pour se faire plaisir. Les expressions qu'il emploie, je trouve un avertissement. Tout le monde fait des erreurs sans le savoir. Pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. Je serai préservé d'une faute grave. Nous font comprendre que, comme tout homme, il a été confronté au péché et aux mauvaises influences. Préserve-moi des insolents, fais qu'il n'ait aucune prise sur moi. Peut-être était-il découragé de se sentir entraîné loin de Dieu à cause des circonstances de la vie. C'est une situation que tout homme peut connaître au cours de son existence. Qu'est-ce qui a mis fin à cette déprime? Car il y a bien eu une fin. Le dernier verset en témoigne de cette fin. Il parle de Dieu comme son rocher et son défenseur. J'espère, dit-il, que tu trouveras ce que j'ai dit, que tu approuveras ce que j'ai dit et médité devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Ce qui a mis fin à sa déprime, c'est son retour à la Torah. C'est dans les Écritures qu'il a retrouvé, ou trouvé, que le bonheur pour l'homme ne se trouve nulle part ailleurs que dans la communion avec Dieu. Et qu'on ne peut comprendre cela que dans une connaissance approfondie des Écritures, où Dieu révèle parfaitement son plan aux hommes. Les merveilles que nous offre la création sont sans doute une étape, et j'aurais envie de dire une étape voilée pour apprendre à connaître Dieu. Une étape pour les hommes qui n'ont jamais plongé leur regard dans les Écritures. Mais la révélation totale, seule la Bible, permet à l'homme d'y accéder. C'est que Dieu l'a voulu ainsi. Ce passé de méditer la parole de Dieu chaque jour, c'est s'éloigner de la vérité et se construire petit à petit le Dieu qui nous arrange. Se construire petit à petit le Dieu qui nous arrange. Alors Seigneur, donne-moi de comprendre ce piège et ce danger. Et surtout, donne-moi soif de ta parole.